Radio Starbit.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Il avait des fourmis dans les jambes de manière très intense. Alors le médecin a tout de suite dit, c'est une intoxication à cause d'un gaz.
Ce qu'on entend, ça se passe dans le centre du Chili. Cette intoxication touche tout le monde, les enfants en particulier. Les responsables, on les connaît, des usines polluantes installées dans la région qui sont aussi celles qui fournissent les emplois. Donc les autorités ne bougent pas ou très peu, c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Ce soir, sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Espagne, dans les îles Tonga et en croisière vers l'infini et au-delà. 18h50, le cinéma en VO, Corinne Polici a vu Green Book avec Viggo Mortensen. Et puis 18h55, Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four. Et cette querelle alors avec l'Italie, ces tweets assassins, est-ce qu'on l'a cherché si l'Italie nous tombe dessus ou pas? Mais avant, direction la Syrie, en passant par Moscou, en passant par Ankara, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Les présidents russes, Vladimir Poutine et turc, Recep Tayyip Erdogan, discutent donc aujourd'hui de la Syrie à Moscou. La Turquie cherchant à convaincre du bien-être de sa proposition d'une sorte de zone sécurité dans le nord syrien pour y empêcher une autonomie kurde qui fait tellement peur à la Turquie. La Russie, de son côté, soutient militairement Damas et la Turquie aide, elle, le camp inverse, le premier face-à-face de ces deux hommes depuis que Donald Trump a retiré ses troupes de Syrie, ou décidé en tout cas de le faire, ce qui change quand même beaucoup la donne de la région. Bonsoir Thomas Gomard.
Bonsoir Fabienne Saint-Pès.
Vous êtes historien, directeur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Votre dernier ouvrage s'appelle L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, et c'est peut-être l'un des affolements d'ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements dans ces coins-là. Est-ce que Poutine qui rencontre Erdogan, est-ce que c'est Poutine qui rencontre Erdogan, ou est-ce que c'est l'inverse au fond? C'est-à-dire en gros, qui a la main dans cette rencontre, qui compte sur l'autre, qui est à la merci de qui là-dedans?
Un bref rappel historique. Allez-y. En décembre 2015, les deux pays, la Turquie et la Russie, sont au bord de l'affrontement parce que vous avez un avion russe qui est abattu par les Turcs. Juillet 2016, tentative de coup d'État contre Erdogan, et a priori, le pays qui a le plus soutenu Erdogan, c'est la Russie. Et donc, en 6 mois, la relation s'est inversée et depuis ne cesse de s'intensifier puisqu'on a un régime turc qui s'est durci et qui en même temps va chercher à Moscou des garanties de sécurité, notamment en termes d'achat de matériel militaire, tout en restant membre de l'OTAN. Et parallèlement, vous avez une Russie qui, de manière très spectaculaire, occupe le centre de la carte, si j'ose dire, au Moyen-Orient. Dans l'ouvrage, je fais un autre appel, c'est que si vous vous souvenez, en 2008, pour l'Union pour la Méditerranée, il y avait 44 pays présents, initiative française, 44 pays présents, dont Bachar el-Assad, dont Hosni Moubarak. Il y a deux pays qui sont absents en 2008, la Russie et l'Iran. Or, ce sont les deux pays aujourd'hui les plus présents, en particulier en Syrie.
Et d'ailleurs, effectivement, Erdogan et Poutine se rencontrent aujourd'hui, et puis la rencontre à trois va suivre derrière avec l'Iran. Mais sur la Syrie, on a l'impression que leurs intérêts sont parfaitement contradictoires, alors que plus ça va, plus ils se regroupent. Au fond, on marche un peu sur une ligne de crête quand même entre ces deux pays-là. Qu'est-ce qui fait qu'on peut mettre de côté les grandes différences sur la Syrie pour faire des rencontres comme celle-là et s'entendre, comme vous le dites, de mieux en mieux depuis 3 ans?
Vous avez raison, on est sur une ligne de crête parce que leurs intérêts de sécurité sont en train de diverger. Qu'est-ce qui se passe à la faveur de la chute de Daesh? Le président Erdogan veut traiter le problème kurde. Et donc, est dans une logique, au fond, il voit dans les Kurdes syriens une extension du PKK qui est son pire ennemi, d'une certaine manière. Et donc, pour lui, il faut abattre, d'une certaine manière, les Kurdes. Or, ce sont les Kurdes qui ont le plus combattu Daesh et qui, à ce titre, ont bénéficié du soutien américain et du soutien européen. Côté russe, il y avait eu un arrangement pour la poche d'Idlib, c'est-à-dire que les Turcs ont fait en sorte que les Russes, en septembre, ne traitent pas ce problème. C'est probablement l'heure de vérité, c'est-à-dire que la perspective, au fond, non pas d'un affrontement direct, je pense, mais le fait que les Russes veulent traiter la poche d'Idlib, ils y voient un regain djihadiste et donc il faut le traiter, rentre en contradiction avec les intérêts turcs qui cherchent, eux, à soutenir encore certains éléments à Idlib.
Donc ça veut dire qu'on va s'échanger une partie de ce Kurdistan syrien contre Idlib. Je t'autorise à bouger de ce côté-là si tu m'autorises, moi, ou en tout cas si tu me mets de ce côté avec la poche d'Idlib. Est-ce qu'il peut y avoir une espèce de jeu qui ressemble à ça aujourd'hui ou pas?
C'est difficile à dire parce que l'élément très déstabilisant, c'est l'annonce du retrait américain. Mm-hmm. Si vous voulez, la présence américaine, même si elle n'était pas extrêmement massive sur le terrain, politiquement était essentielle parce qu'au fond, les Américains étaient dans une forme d'équidistance. Les Américains se retirant, ça place évidemment aujourd'hui la Russie au centre du jeu. Et la grande question, c'est est-ce que la Russie qui a modifié le rapport de force militaire sur le terrain en stabilisant le régime de Bachar el-Assad, en faisant ce rapprochement avec la Turquie que nous mentionnons, en ayant aussi ce rapport avec l'Iran, est-elle capable de traduire ça en termes diplomatiques et politiques? Et ça, c'est beaucoup moins sûr. C'est-à-dire que la Russie se retrouve probablement dans une situation connue par les Occidentaux. Mm-hmm. Elle est intervenue militairement, mais comment traduire son gain militaire en résolution politique?
Et au fond, c'est plus simple quand les Américains sont là, parce que c'est plus simple de savoir aussi, d'une certaine façon, où sont les pions, où sont les ennemis, en fait. On a l'impression que ça les gêne plus qu'autre chose, ce départ des Américains, les Russes en ce moment.
Alors, oui et non. Oui, dans le sens où c'est peut-être plus précipité que prévu. Ensuite, Trump et Poutine se retrouvent pour dire que Daesh a été battu, ce qui n'est pas l'analyse que l'on peut faire en Europe. C'est-à-dire qu'on a, nous, un problème de sécurité européen très différent avec ce qu'on appelle les returnees, c'est-à-dire les djihadistes qui sont allés se battre et qui vont venir en Europe. Alors, ça concerne aussi la Russie, parce que vous avez beaucoup de russophones dans les gens qui ont rejoint les rangs de Daesh. Ça concerne beaucoup moins les États-Unis.
Non, mais ça concerne aussi les Kurdes qui sont au milieu de cette histoire-là, puisque il y a beaucoup de djihadistes qui sont prisonniers aujourd'hui dans ce Kurdistan-là. Et on entend les Kurdes dire, moi, je veux bien que vous attaquiez aux Turcs, bien sûr, mais attention. Si les geôles s'ouvrent, ce ne sera pas de notre faute.
Absolument.
Donc ça rentre aussi dans cette équation.
Absolument. Et puis, il y a un problème pour les Européens, c'est que les troupes qui se sont le plus battues contre Daesh au sol, ce sont précisément les Kurdes. Et là aussi, je pense que c'est intéressant d'avoir un peu de perspective historique. En 1991, lorsque Saddam Hussein est défait, il s'en prend aux Kurdes, hein, avec l'utilisation d'armes chimiques, etc. Tout le monde s'en souvient. Et c'est au fond, pour les Occidentaux, et en particulier pour les Européens, l'embryon de ce qui va devenir le droit d'ingérence. Bon. Et là, on est probablement aussi au terme de ce cycle-là, c'est-à-dire de formes d'intervention occidentale qui ne produisent plus des effets sur le terrain.
Mais Thomas Gomard, est-ce que aujourd'hui, Erdogan, même sans le dire, a renoncé à son attaque vers les Kurdes, ou est-ce qu'il est en train de demander à Moscou une sorte de blanc-seing ou pas pour aller attaquer, ou est-ce que pour l'instant on est vraiment que dans une forme de gesticulation politique et ce sujet est repassé en deuxième rang en fait?
Je ne saurais pas vous répondre, c'est-à-dire je pense qu'il y a une sorte de... tout le monde s'observe et qu'une part de la réponse se situe après le départ américain, c'est-à-dire que tout le monde va essayer de consolider ses positions avant le départ américain. Ce qui est certain concernant la Turquie d'Erdogan, c'est un, le durcissement extrême du régime. Et donc, ce durcissement signifie que une question de sécurité permet de mobiliser l'opinion en Turquie. Je rappelle que la Turquie traverse une crise économique extrêmement sévère. Et que deux, l'objectif de sécurité prioritaire pour la Turquie depuis toujours, c'est le problème kurde. Donc si Erdogan a l'occasion d'une certaine manière de le traiter à sa façon, je vois pas ce qui pourrait tempérer ses ardeurs.
Les Russes, ça dit, doivent être assez contents, non? Que les Kurdes, notamment, disent, attendez, parce que nous, on va se tourner vers Damas si on se fait attaquer par les Kurdes. Est-ce que ça les arrange? Est-ce que ça les
vous
arrange
avez,
pas,
dans, au dans, final dans la littérature d'experts, vous avez effectivement des scénarios où les Kurdes seraient réintégrés à l'armée de Damas, etc. On lit ce genre de choses. Vous avez aussi une présence très ancienne de la Russie au Kurdistan, avec des liens très anciens qui sont liés aussi à l'exploitation pétrolière. Moi, ça me semble à ce stade très, très improbable et très spéculatif en réalité. Encore une fois, je pense qu'on est dans une situation où tout est suspendu aux conditions du retrait américain.
Mais est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs un retrait plus tardif, parce qu'on a un peu le sentiment, comme d'habitude, que Donald Trump a réagi à très court terme? D'ailleurs, c'est ce que vous expliquez, il y a de la politique de très très court terme. Après, le long terme, c'est quelque chose qu'il ne voit pas, Donald Trump, en tout cas dans sa politique étrangère. Donc est-ce qu'on peut imaginer un retrait beaucoup plus tardif, parce que peut-être qu'il a réalisé aussi ce que ça donnait dans la région, et surtout en quoi les Kurdes avaient été importants, notamment contre Daesh, sachant que tout ça n'est pas tout à fait terminé. Donc est-ce qu'on peut imaginer que...
Alors, c'est effectivement ce qui se dit, c'est-à-dire que le calendrier de retrait est tout sauf précis à ce stade. Vous avez différentes forces, notamment à Washington, qui s'exercent pour essayer aussi de prolonger la présence. C'est un sujet absolument crucial pour les Européens. Je rappelle que en avril 2018, France, Royaume-Uni et États-Unis frappent le régime de Bachar après l'utilisation des armes chimiques. Et un peu moins de 9 mois après, de manière unilatérale et non préparée, Donald Trump annonce son retrait. Mmh. Or ça, c'est extrêmement déstabilisant pour un pays comme le nôtre, dans la mesure où nous avons des forces engagées dans Chamal et que, évidemment, le retrait américain fragilise leur position sur le terrain.
Cette rencontre, elle prépare cette rencontre Erdogan-Poutine, elle prépare le prochain sommet qui doit se faire normalement avec l'Iran aussi. Quels sont les... Et on sait bien qu'il y en a eu un précédemment qui avait échoué d'ailleurs autour de la question d'Idlib, si mes souvenirs sont bons. Avec quelle sorte de bille Poutine peut arriver désormais pour que une rencontre à trois avec Erdogan et Téhéran se passe dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il y a une chance pour que quelque chose aboutisse désormais, y compris désormais que les Américains ne sont pas là dans ce secteur-là?
Bon, ce retrait américain, c'est aussi une très bonne nouvelle pour Téhéran, parce que ça permet à Téhéran, je dirais, d'amplifier ses ambitions au Levant d'une manière générale, c'est-à-dire à la fois en Syrie et au Liban. Maintenant, j'avais fait ce rappel sur l'Union pour la Méditerranée. C'est tout à fait fascinant de voir le retour d'influence de la Russie au Moyen-Orient. Ça, c'est un des, ce que j'explique dans le livre, c'est une des choses les plus inattendues au fond de ces dernières années. Entre la situation en 2015 et la situation aujourd'hui, il y a un acteur qui s'est imposé, c'est la Russie, et qui parle au fond à tout le monde, qui a la capacité diplomatique de parler à tout le monde. Un des grands sujets pour la Russie, plus que l'opposition entre la Turquie, qui, je le rappelle, était farouchement opposée à Bachar el-Assad au départ, et l'Iran, qui est un principal soutien de Bachar el-Assad, il y a cette tension-là, mais qui est plus ou moins, je dirais, encadrée sur le plan diplomatique avec ce qu'on appelle le processus d'Astana. Le vrai sujet pour la Russie, c'est d'éviter un embrasement entre l'Iran et Israël en Syrie, parce que un des principaux partenaires au fond de sécurité maintenant de la Russie, ce sont des choses qui ne sont pas forcément suffisamment connues, c'est Israël. Et donc, il y a cette idée d'une Russie qui se place en position d'arbitre entre l'Iran et Israël en Syrie. Et
j'allais vous y emmener parce qu'il y a eu de nouvelles frappes qui se sont faites dans des... Alors, ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, on a l'impression que Israël en parle, Israël le revendique. Il y a quelque chose dans le vocabulaire, dans la sémantique autour de ces frappes-là de la part d'Israël qui est très différente des fois précédentes. Pourquoi, à votre avis?
Bon, il y a une chose qui est claire, c'est que le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien au printemps dernier a constitué un axe contre Téhéran, axe avec Riyad, Arabie Saoudite, Tel Aviv et Washington. Et donc l'ennemi pour Israël, c'est très clairement Téhéran. Et en ce sens, l'administration Trump sert les intérêts d'Israël. La deuxième chose que j'essaie aussi de souligner dans le livre, c'est qu'il ne faut plus penser, à mon avis, le Levant sans prendre en compte trois mers adjacentes. La mer Noire, puisque la Russie est redevenue la puissance dominante en mer Noire, et ça lui donne donc une possibilité de stratégie d'accès vers le Moyen-Orient. La mer Caspienne, puisque ça permet à l'Iran. Je rappelle qu'en 2016, pour la première fois, on a eu des missiles russes tirés de Caspienne. Et donc, si vous voulez, il faut voir aussi ce théâtre-là, non pas d'une manière ouest-est, mais aussi est-ouest. Et puis, la mer Rouge, c'est-à-dire, on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a le rôle tout à fait, et toutes les incertitudes, du rôle de l'Arabie Saoudite. Autrement dit, le point effectivement très intéressant de la position russe, encore une fois, c'est d'être en mesure de parler à tout le monde. La vraie question, c'est est-ce que la Russie, et je pense que c'est une question difficile à apprécier à ce stade, a les moyens politiques de transformer ce qu'elle a provoqué militairement. Ce n'est pas sûr, parce que elle a beau parler à tout le monde, la capacité de créer une dynamique positive, si vous voulez, de reconstruction, me semble encore très loin. Et surtout, l'appréciation selon laquelle Daesh est complètement abattu est peut-être une appréciation trop optimiste.
Sans doute. D'ailleurs, là, pour le coup, tout le monde est d'accord pour dire que...
En fait, quand vous écoutez le discours
russe...
Sauf c'est Trump, et même chez Poutine. C'est-à-dire qu'en gros, il considère que l'État islamique est défait. Ce n'est pas l'appréciation qu'on faisait. C'est ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il y a des résurgences toujours possibles.
Il faut toujours se méfier du vide dans ces cas-là. Merci beaucoup. Je rappelle que votre livre s'appelle L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques. Thomas Gomard, merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Saintès, Un jour dans le monde.
Ensuite, c'est l'arrivée de la bande habituelle du mercredi. Amélie Perrier, Corinne Pellissier, Jean-Marc Four. On continue à se promener sur la planète. Un petit détour. Où ça déjà? J'ai oublié. Allez, c'est parti. Jeanne Haddad, voilà. Will lie in a bed that I will make out of stone, out of clay. Jeanne Haddad sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmakhil Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perry. Amélie, on commence avec l'extrême droite qui fraye avec le Golfe Persique.
Oui, ce sont les révélations du journal El País en Espagne sur le parti Vox. Vous savez, c'est ce parti qui a réussi un très joli coup politique le mois dernier en s'emparant de 12 sièges au Parlement régional d'Andalousie.
Españoles, con vosotros, el presidente de Vox, Santiago Abascal Conde.
Alors Vox, voilà, c'est le parti de Santiago Abascal, ici en meeting, mouvement d'extrême droite, populiste, nationaliste, anti-immigration, anti-islam, car cette religion menace, selon ses fondateurs, l'identité profondément catholique de l'Espagne. Or, El País a eu accès à un tableau des généreux mécènes qui ont permis la création de Vox en 2013 et qui financent ses dépenses courantes. Surprise, des Iraniens du CNRI auraient fait pas mal de virements sur les comptes du parti. Le CNRI, c'est le Conseil national de la résistance iranienne, des opposants au pouvoir iranien en exil à l'étranger. Le fondateur et premier président de Vox, Alejo Vidal Quadras, l'admet au journal. Il a noué des liens avec la résistance iranienne qui faisait à l'époque un intense lobbying au niveau européen pour réhabiliter les moudjahidines du peuple. Les fonds des exilés iraniens n'étaient pas seulement utilisés pour payer la campagne européenne de 2014, mais aussi pour démarrer Vox, avoue Vidal Quadras aujourd'hui. Presque 1 million d'euros ont été versés entre décembre 2013 et avril 2014. Alors ce financement iranien, nous dit El País, a cessé après la défaite de Vidal Quadras, le premier président aux élections européennes et son départ du parti. Mais ce nom, Vidal Quadras, l'actuel patron de Vox, Santiago Abascal, a été mis au courant de tout ça. Il a approuvé. Aujourd'hui, la formation est plutôt embarrassée.
Les îles Tonga ne répondent plus.
Effectivement.
Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel.
Ah, c'est quasi ça.
Bah oui, c'est sûr, petit... ça résonne en plus, parce que c'est super loin.
Oui, c'est ça. Le petit état de Polynésie est victime d'une coupure quasi totale de ses communications. Les quelques 170 îles du Pacifique Sud sont privées d'internet et de téléphone à cause d'un dommage sur un câble sous-marin. Un seul et unique câble qui alimente les Tonga. Les habitants ont été pris par surprise dimanche soir. C'est le mauvais temps, une tempête magnétique qui a abîmé le câble. Un navire doit se rendre sur place dans les prochains jours pour le réparer, mais tout cela pourrait prendre des semaines. En attendant, une liaison par satellite assure le relais, à minima, c'est très lent. Alors les autorités réfléchissent à bloquer Facebook et YouTube. Les réseaux sociaux représentent 80% de leur trafic sur le web. Les Tonga, soudainement, prennent conscience à quel point on peut être dépendant du net. Les habitants doivent vivre sans courrier électronique, sans transfert d'argent, sans réservation de vol. Et là, je vous rappelle que l'on est sur un archipel, 170 îles. Et plus de terminaux de cartes bancaires non plus au supermarché. Un très difficile retour en arrière pour les habitants et les entreprises.
Allez, on part maintenant en voyage, tiens, justement.
Oui, une croisière en Antarctique dont le but est scientifique. Une expédition organisée par la Flat Earth Society. Vous l'avez peut-être compris, nous partons dans l'univers des platistes. Oui, ça s'appelle comme ça, les platistes, ces personnes qui
c'est
sont convaincues.
Pas un groupe. Non,
non,
c'est
non.
Pas
non, c'est les platistes. Platistes. Ils sont convaincus que la Terre est plate. Écoutez-les lors d'une convention aux États-Unis quand une journaliste leur demande et la Terre, elle est.
And the Earth is.
Flat. Flat.
The Earth is flat.
My reality, my senses tell me that the Earth is flat and stationary.
One, two, three.
Flat. We are not crazy, on n'est pas fous, tous répondent donc.
J'adore
elle
la
est
science
plate.
Là-dedans.
Oui. Voilà, c'est oui, il y a des arguments.
Moi, je le sens que c'est plat, bah oui.
Alors, écrit tous qui sont pas fous, ça reste à démontrer. En tout cas, ils sont une illustration des théories complotistes du moment. Et pour que le monde les croie, ils sont prêts donc à embarquer l'an prochain, en 2020, sur un bateau de croisière direction l'Antarctique, le pôle sud. Selon eux, c'est l'extrémité du monde. En fait, le centre de la Terre se trouverait au pôle nord. Puis après, vous aplatissez la carte et le bout au sud, où un mur de glace matérialiserait
la fin. Ah bah, c'est Game of Thrones.
Oui, exactement. Et donc ce mur, ça éviterait de tomber. Et sur les réseaux sociaux, ils se font quand même pas mal charrier. Ça ne les décourage pas. On a hâte de suivre leur expédition l'an prochain.
En même temps, si on ne les revoit plus, c'est donc qu'ils auront tourné.
Tombés, voilà.
Et que donc...
Ou alors qu'ils tournent.
La Terre
fin.
Est bien ronde. Voilà.
On verra.
Écoutez, avec vous,
prochaine.
On aime bien cette chronique scientifique. On embrasse Mathieu Vidard. Merci beaucoup, Amélie. À demain.
À demain.
France Inter.
Doha. Harare.
Jérusalem.
Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul. Washington.
São Paulo.
Beyrouth. France Inter.
Et c'est au Chili que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir à Quintero. Très exactement, c'est au centre du pays touché par une vague d'intoxication qu'on a du mal à identifier. En revanche, ce qu'on sait très bien, c'est combien d'entreprises et d'usines polluantes sont installées dans la baie. Bonsoir, Justine Fontaine.
Bonsoir Fabienne.
Au Chili, pour un jour dans le monde, Justine, on va le comprendre avec vous, l'usine responsable des intoxications, on a du mal donc à l'identifier, mais les habitants qui subissent ces intoxications critiquent la lenteur des autorités. Il faut dire que ces entreprises polluantes sont une clé pour l'économie chilienne et vous avez rencontré les habitants de la région, on vous suit.
Depuis la plage de Quintero, on aperçoit les cheminées des usines de la zone industrielle, une fonderie de cuivre, plusieurs centrales électriques à charbon, des terminaux pétroliers et gaziers, des usines chimiques, au total 18 usines polluantes qui sont aujourd'hui pointées du doigt à cause d'une série d'intoxications qui a commencé fin août. Joshua Kadima travaille dans un collège de Quintero. Ces dernières semaines, il a dû emmener plusieurs élèves à l'hôpital de la ville, puis son propre fils qui souffrait de maux de tête, de vomissements et ne sentait plus l'extrémité de ses pieds.
Il avait des fourmis dans les jambes de manière très intense et il ne répondait pas à certains gestes destinés à tester les réflexes. Alors le médecin a tout de suite dit « Ce symptôme, en plus des vomissements et des maux de tête, permet d'écarter l'hypothèse d'une indigestion. C'est une intoxication à cause d'un gaz. »
Quelques jours après le premier pic d'intoxication, les autorités ont détecté plusieurs gaz dangereux, dont l'un est interdit au Chili. Mais le gouvernement affirme que les relevés ont été mal faits et le gaz exact ainsi que l'entreprise responsable des intoxications n'ont toujours pas été identifiés. Dans ce contexte, sans savoir quelle substance chercher, les services de santé n'ont pas fait d'examen approfondi chez les victimes, comme chez le fils de Joshua.
Aucun examen toxicologique ou examen des cheveux ou quoi que ce soit qui puisse donner une réponse pour savoir quel type de gaz ou de substance ont pu jouer un rôle dans l'intoxication.
André Tchernichin est professeur de médecine à l'Université du Chili. Il préside aussi le département de l'environnement au sein de l'Ordre des médecins. Il vient de réaliser une étude sur ces intoxications qui durent depuis fin août. Et pour lui, les autorités n'ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger les habitants.
Le service chargé de gérer ce type d'urgence chimique n'a rien fait. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de se rendre sur place avec un représentant régional du ministère de l'Environnement et dire aux habitants et aux professeurs « Tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas ». Alors qu'en présence d'un gaz qui produit ce genre de symptômes, il aurait fallu au minimum évacuer les enfants les plus jeunes et les femmes enceintes, car ces substances chimiques qui ont été détectées peuvent laisser des séquelles chez le fœtus, en particulier au cours des 3 derniers mois de la grossesse.
Sur la place principale de Quintero, des habitants et des associations ont installé quelques tentes et un abri de fortune pour protester contre la pollution. Certains dorment et cuisinent sur place et ils comptent rester ici tant que la cause des intoxications ne sera pas établie. Sébastien Santos est leur porte-parole.
Nous savons aún.
On ne sait toujours pas qui sont les responsables de ces empoisonnements massifs, ceux qui les a provoqués. Ça nous met très en colère. Ça nous fait peur aussi parce qu'à tout moment, on se dit que quelqu'un peut mourir et plus seulement se retrouver aux urgences. On a d'autant plus peur que les jeunes de moins de 20 ans sont ceux qui ont été les plus nombreux à se rendre à l'hôpital, d'après les statistiques dont on dispose.
Les associations demandent aussi la mise en place de normes de pollution conformes aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus strictes que les normes chiliennes actuelles. C'est une urgence, selon Andrea Castro, une jeune chef d'entreprise qui vit à quelques centaines de mètres de la zone industrielle.
Hace más de 50 años que llegó la primera empresa.
La première entreprise s'est installée il y a plus de 50 ans. La zone est saturée d'usines et elles n'ont pas investi dans des technologies plus propres. Donc elles font de l'argent, du profit, encore du profit, et elles ne pensent pas aux habitants. Les entreprises ne peuvent pas partir, elles ne vont pas partir. Mais qu'elles adoptent des normes qui ne nous tuent pas.
«
Andrea le constate, hein, certains habitants sont fatigués de se battre face aux puissants lobbies des entreprises, dont les dirigeants sont parfois très proches du pouvoir politique. Et personne n'oublie ici l'importance cruciale du secteur du cuivre pour le Chili, ni le fait que l'essentiel du gaz et du pétrole consommés dans la région de Santiago, la capitale, transite par les usines de la baie de Quintero.
Justine Fontaine au Chili pour Un jour dans le monde, merci beaucoup. Le tour de la planète n'est pas fini, il continue avec Curtis Mayfield, Superfly. Field sur France Inter, Superfly. Corinne Pellissier adore d'ailleurs.
3, 2, 1, moteur. France Inter. Movies are made of light. Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Mais c'est vrai, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir.
Très fan de Curtis Mayfield. Mais sinon, voilà un homme qui a pris 30 kilos pour son nouveau rôle, qui fait figure même de favori aux Oscars. Viggo Mortensen est à l'affiche de Green Book, Les routes du Sud. Le film est signé Peter Farrelly, c'est un biopic, c'est l'histoire d'un musicien noir américain. On est dans les années 60, il veut parcourir les États du Sud pour y donner une série de concerts. Et Mortensen joue son chauffeur et garde du corps. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont finir par s'apprécier. Bonne annonce d'abord, on en parle après.
Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested?
I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have?
Public relations.
Do you foresee any issues in working for a black man?
You in the Deep South? There's gonna be problems.
Promise me you're gonna write me a letter.
Pick it up, Tony.
Squirrels would eat it anyway.
Pick it up.
Alors Green Book, Corinne, le Green Book d'abord c'est le petit guide de voyage qu'avaient les Noirs dans les années 60. Ce qu'on entend là, on a bien entendu, il y a un petit côté comédie là-dedans, mais c'est aussi, peut-être surtout, un film sur une Amérique raciste qui a finalement pas beaucoup changé d'ailleurs.
Bah, l'histoire de ce pianiste Don Shirley se déroule dans les années 60, en pleine lutte pour les droits civiques des Noirs, mais pourrait tout aussi bien raconter l'Amérique d'aujourd'hui. Les bavures policières, cette atmosphère un peu poisseuse de racisme ordinaire. Vous êtes Noir, eh bien ce n'est pas possible que vous sachiez jouer du Chopin comme un dieu, eux que vous n'aimiez pas. pas les nuggets de poulet. Voilà, beaucoup d'humour dans le film. Ça a souvent été d'ailleurs la marque de fabrique de Peter Farrelly, mais le propos est aussi très profond. On suit ici le personnage de Tony Lip, un Italien au gros bras, videur de boîte de nuit, un peu raciste sur les bords, qui va se retrouver un jour obligé de jouer les gardes du corps pour un musicien noir, Mahershala Ali, dans le rôle de Don Shirley. Et pour lui, ce n'est pas une petite affaire, car s'il tolère au quotidien qu'un artisan de couleur vienne chez lui faire des travaux, eh bien, dès qu'il s'en va, tout ce qui a touché par la poubelle.
Alors, Viggo Mortensen, nommé aux Oscars, Corinne, dans la catégorie meilleur acteur, Mahershala Ali, nommé lui dans la catégorie du meilleur second rôle, tous les deux contre-emploi, et c'est pour ça que ça marche, en fait.
Ouais, Viggo Mortensen, habitué des grands rôles humanistes au cinéma, ne tarit pas d'éloges sur le scénario et sur le parcours de cet homme qu'il incarne et qui va évoluer au fur et à mesure de la tournée.
J'aime les personnages qui ont la capacité d'évoluer, de changer, d'apprendre quelque chose. Au début du film, je fais des choses, comme Tony Lip, clairement racistes. J'ai dit des choses, ma famille dit des choses qui sont racistes. Le vocabulaire, le comportement, c'est raciste. Et j'aime ce film. Je pense que c'est un film utile. Parce que c'est une histoire qui parle sincèrement de la tolérance, de la fraternité, évidemment, de la compassion. C'est important qu'un film comme ça peut se voir maintenant, aujourd'hui, quand il y a de la polarisation, la xénophobie de la part des politiciens et dans la société. Mais c'est un bon film pour 1990 ou pour 2030, parce que la discrimination, le racisme, la xénophobie, ça va rester toujours. Ça peut changer de vocabulaire, de visage, mais les sentiments, les pensées racistes, discriminatoires, ils vont rester toujours. C'est question de guérir ou de lutter contre l'ignorance avec l'expérience de vivre ensemble. Et c'est un film qui peut devenir un classique, parce que je crois que le travail de Pete Farrelly est à l'auteur du meilleur travail de Frank Capra ou Preston Sturges ou je sais pas en France. Mais c'est pas un film fait pour une minorité qui est complètement d'accord politiquement. C'est un film fait pour tout le monde.
Avec 2 mois pour tout changer, hein, ce road movie sur les routes du Sud, rempli de péripéties, d'aventures qui vont rapprocher ces deux hommes que tout sépare. Le chauffeur deviendra moins russe, moins raciste, le musicien moins collé monté, moins cheval sur ses principes. C'est un film très réussi, avec des bons sentiments, de l'action, de l'humour. Il plaira autant aux amateurs de films d'auteur qu'au grand public. Le scénario est rempli de détails qui en font vraiment un objet indispensable de lutte contre les préjugés. Et puis c'est l'occasion aussi de redécouvrir le répertoire de Don Shirley, docteur en psychologie et en musique, s'il vous plaît.
Eh bien, écoutez, formidable, ça sort évidemment aujourd'hui. 3 récompenses au Golden Globe, un prix du public à Toronto, 6 nominations pour les Oscars. Green Book, Les Routes du Sud, signé Peter Farrelly, voilà c'est dit.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers. Jean-Marc, aujourd'hui encore, les dirigeants italiens ont remis de l'huile sur le feu dans les relations avec la France en critiquant vertement Emmanuel Macron. Ça semble se dégrader de jour en jour et les propos italiens choquent évidemment à Paris. Mais dans votre Monde à l'envers, vous examinez justement les choses du point de vue italien. Et vous dites que Rome n'a peut-être pas tout à fait tort. Bon,
c'est vrai qu'il manque pas d'air quand même. Hein. Luigi Di Maio et Matteo Salvini, les deux hommes forts du gouvernement italien. Regardez un petit échantillon. D'abord, la page Facebook cet après-midi de Luigi Di Maio, le leader du mouvement 5 étoiles. En une, l'une des chartes, entre guillemets, des gilets jaunes français, avec une attaque en règle de Di Maio contre le franc CFA, facteur de pauvreté pour l'Afrique et cause de l'immigration vers l'Europe. Ensuite, le compte Twitter de Matteo Salvini. In Francia hanno un pessimo governo e un pessimo presidente. Ça veut dire la France a un très mauvais gouvernement et un très mauvais président. Et bing ! Et Macron devrait faire comme Bolsonaro avec Battisti, nous rendre les anciens terroristes réfugiés en France. Et c'est comme ça tous les jours depuis 2 semaines. Les diplomates des deux pays qui en ont pourtant vu d'autres ne cachent pas une certaine surprise devant la violence du vocabulaire. On est loin des codes habituels et feutrés, de la règle tacite selon laquelle on ne se mêle pas des affaires nationales du voisin d'à côté. C'est sans précédent, faut bien le dire, de voir des dirigeants d'un gouvernement étranger, a priori ami, en appeler au renversement du pouvoir en place dans le pays voisin. Paris, c'est compréhensible, est choqué, qualifie donc ses propos d'inacceptables et l'ambassadrice d'Italie est convoquée au Quai d'Orsay. Bref, les relations franco-italiennes sont en chute libre C'est une raison de plus pour essayer de comprendre ce raisonnement italien.
Mais alors ce raisonnement, donc, il s'explique ?
Oui, il s'explique. D'abord, il doit être analysé évidemment dans le contexte électoral des européennes. Les deux leaders, Salvini et Di Maio, sont partenaires au gouvernement, mais ils sont aussi concurrents. Et le parti du premier, la Ligue d'extrême droite, a désormais 10 points d'avance dans les sondages sur le parti du second, le mouvement 5 étoiles. Il y a donc une course à l'échalote entre les deux, une surenchère tactique pour séduire les électeurs en désignant un ennemi facile. En l'occurrence, c'est la France. Deuxième raison, il y a en tout cas chez Di Maio un accord de fond avec certaines revendications des Gilets jaunes français, par exemple sur le référendum d'initiative citoyenne. Tertio, il y a un sentiment très partagé en Italie d'une certaine arrogance française sur les rachats d'entreprises italiennes ou sur la gestion de la crise en Libye. Sans oublier qu'en matière de vocabulaire agressif, les Français s'y entendent quand même eux aussi. Emmanuel Macron parlant l'an dernier de lèpre populiste en Europe ou Pierre Moscovici évoquant un petit Mussolini. C'est donc, du point de vue italien, un renvoi d'ascenseur. Avec un risque somme toute calculé, parce qu'à ce stade, ça ne met pas encore, en tout cas en péril, la longue traîne des relations diplomatiques, ni l'importance des liens économiques. L'Italie reste notre deuxième partenaire commercial.
Donc ok, vous dites que ça peut s'expliquer, mais sur le fond des dossiers, est-ce que l'Italie a en partie raison ou pas ?
Elle n'a pas totalement tort. En tout cas, il faut entendre ce qu'elle dit. Sur les migrants, on a déjà eu l'occasion de le dire ici d'ailleurs, Rome dénonce à raison le double discours français, Paris ne peut guère donner de leçons à l'Italie sur ce sujet. Sur le franc CFA, le propos de Di Maio est exagéré, le franc CFA c'est aussi un facteur de stabilité en Afrique, mais ce débat existe aussi, il faut le savoir, dans les pays africains, sur la nécessité de réformer ce système qui est hérité de la période coloniale. Sur les anciens militants ou terroristes, selon l'appellation qu'on veut d'extrême gauche, réfugiés en France, c'est un fait, et il serait près d'une trentaine. Rome les réclame depuis longtemps, notamment Giorgio Petro Stefani, condamné en Italie pour avoir tué un commissaire de police pendant les années de plomb. Donc du point de vue italien, ça se défend. Et puis il reste le dernier point, j'allais dire le tabou. Ça ne se fait pas de se mêler des affaires des autres. Mais ça aussi, après tout, ça peut se discuter. C'est ce que laissent entendre les Italiens. Dans le contexte d'élections européennes, pourquoi s'interdirait-on, par principe, de se mêler de ce que font les pays voisins, puisque les politiques des uns ont un impact sur les autres et réciproquement ? Si on forçait un peu le trait, on pourrait dire que ce code, ce totem du « chacun chez soi » est en fait un argument nationaliste.
Merci beaucoup Jean-Marc Four. Le monde à l'envers tous les jours dans Un jour dans le monde. À demain Jean-Marc. Dans un instant le 18-20, la suite avec le téléphone sonne et puis le journal de Sébastien Paour. Bonne soirée avec nous, ne changez rien.